France Inter, franceinter.com.
Un nouveau livre éclairant la vie de François Mitterrand vient de paraître en librairie. Une jeunesse française, l'auteur Pierre Péan, s'est surtout intéressé à l'itinéraire idéologique du futur président pendant les années noires de l'occupation.
Ans d'histoire. Il y a 14 ans, un livre de Pierre Péan révélait une histoire que pendant un demi-siècle, François Mitterrand avait toujours occultée, celle de sa jeunesse commencée dans des milieux proches de l'extrême droite, puis à Vichy pendant l'occupation, avant qu'il rejoigne les rangs de la résistance en 1943. De sa résistance, François Mitterrand avait beaucoup parlé avant son élection à la présidence de la République, mais pas de sa présence à Vichy, au moment où Pétain s'engageait de plus en plus loin dans la voie de la collaboration et lorsque la police de René Bousquet participait aux premières grandes rafles de Juifs. On savait que François Mitterrand n'avait pas été un résistant de la première heure et qu'il avait même reçu la Francisque des mains du maréchal Pétain. Mais pas tout ce que révélait le livre de Pierre Péan, « Une jeunesse française », sur la couverture duquel figurait une photo qui avait été cachée pendant plus de 50 ans. France Inter, Jean-Luc Hesse, le 1er septembre 1994.
Une photo fait grand bruit ce matin dans Paris Match, une photo que recherchaient beaucoup d'historiens depuis un demi-siècle. C'est Pierre Péan, finalement, qui l'a retrouvée pour les besoins d'un livre qui paraît aux éditions Fayard, Une jeunesse française, François Mitterrand, 1934-1940. Alors Pierre Péan, vous avez retrouvé cette photo, j'aimerais bien que vous nous la décriviez.
Sur cette photo qui est publiée donc sur la couverture du livre, il y a à gauche le maréchal Pétain, au milieu Marcel Barrois et François Mitterrand.
Monsieur Mitterrand.
Bonjour monsieur maréchal.
François Mitterrand. Mes respects monsieur le maréchal.
Bonjour. Que faites-vous au commissariat jeune homme ?
Je m'occupe du journal interne.
Bravo, bravo.
Mitterrand a été très efficace monsieur le maréchal, c'est une très bonne recrue, dotée d'un excellent esprit.
Bravo. Tant qu'il y a des jeunes Français comme vous autres, il nous est interdit de désespérer de la patrie.
Pierre Péan, bonjour.
Bonjour.
C'était l'extrait d'un docu-fiction de Serge Moati qui sera diffusé le 22 avril prochain sur France 2, un film inspiré par votre livre, publié il y a 14 ans, on vient de l'entendre, qui avait fait grand bruit, notamment à cause de cette photo, et puis de toutes les révélations que l'on y trouve dans ce livre, et notamment celle qui faisait de François Mitterrand, premier président socialiste de la Ve République, un admirateur de Pétain. Pétainiste avant d'être résistant ou pétainiste et résistant en même temps, ça peut paraître très surprenant. C'était le cas quand même de beaucoup de gens, Pierre Péan. C'est peut-être pour ça que vous avez appelé votre livre « Une jeunesse française ».
L'histoire est toujours très compliquée. Et effectivement, François Mitterrand a d'abord été maréchaliste à un moment pétainiste, c'est-à-dire un degré au-dessus. Et puis, petit à petit, il a pris un certain nombre de contacts. Et on peut dire que dans l'année 43, il a été à la fois encore maréchaliste et résistant. Et que petit à petit, disons à la fin 43, il n'est plus maréchaliste, il ne devient que résistant. Mais on pouvait être, c'est ça qui est très compliqué à expliquer aujourd'hui, on pouvait être à la fois maréchaliste et résistant.
Parce qu'on croyait, on pensait que Pétain pouvait éventuellement, c'était la théorie du bouclier et de l'épée, pouvait éventuellement permettre le redressement de la France et la lutte à venir contre l'Allemagne. Bon, on s'en est vite rendu compte, ce n'était pas le cas. Ce qui est grave dans le cas de François Mitterrand, c'est qu'il est à Vichy en 1942, qu'il va y rester, après les lois anti-juives de 1940, après le débarquement en Afrique du Nord des Alliés en 1942, après surtout les grandes rafles du Veldiv. Il y est au pire moment du pétainisme, un des pires moments de la collaboration.
Mais il est important de dire à ce moment qu'il n'a pas de fonction de commandement. Mmh. Hein, il est d'abord à la Légion des combattants, et puis ensuite au commissariat au reclassement des prisonniers. prisonniers et s'occupe uniquement des prisonniers.
Alors, on y reviendra. Mais votre livre commence sur le passé de François Mitterrand, commence en 1934, c'est-à-dire, il est extrêmement jeune, il est né en 1916, donc il a 18 ans, et un passé qui commence dans, auprès de l'extrême droite. On le voit en photo, c'est presque aussi gênant pour lui plus tard que la photo avec Maréchal Pétain. On le voit par exemple manifester dans la rue contre avec des jeunes d'extrême droite, je crois que c'était le mouvement des volontaires nationaux du colonel de la Roque, enfin qui était proche du colonel de la Roque, manifester contre les métèques.
Ça, c'est la seule chose qu'il m'a contesté jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas, malgré la photo, il disait « mais c'est pas moi, j'ai jamais... » Il acceptait presque tout, mais pas cette manifestation contre les métèques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est dans un milieu... Alors, on voit bien, comme toujours, François Mitterrand, c'est quand même pas un itinéraire simple. Il a des relations avec beaucoup de gens, beaucoup de milieux d'extrême de droite et d'extrême droite. Et donc, notamment, il est à un moment donné, il est volontaire national avec le colonel de la Roque.
Alors, une jeunesse, évidemment, qui a embarrassé le président de la République, François Mitterrand, quand vous avez révélé cette jeunesse, au point d'ailleurs qu'il a dû s'en expliquer à la télévision, peu de temps après la parution de votre livre, devant Jean-Pierre Elkabbach, le 12 septembre 1994.
Quand on a cet âge-là, on est le produit de son éducation et de son milieu. J'étais, jusqu'à ce que mon expérience personnelle, ma réflexion personnelle, me fasse faire d'autres choix, j'étais le produit de ce milieu. J'étais un jeune homme, disons, classique, beaucoup trop classique. Disons que j'étais un peu lent dans mon évolution. Un homme se construit. Il se construit par ses actes, mais aussi par sa réflexion. La plupart des jeunes gens commencent à gauche et finissent à droite. Moi, j'ai commencé dans une famille modérée de droite et j'ai accompli toute ma carrière sous le signe de la gauche. Et je me suis construit à ma manière. Et je suis devenu non seulement un homme de gauche, mais un responsable de la gauche en France. C'est pour moi une immense honneur.
Un homme se construit, c'était François Mitterrand au micro de Jean-Pierre Elkabbach en septembre 1994. Il est le produit, disait François Mitterrand, de son milieu, mais il est aussi, et votre livre le révèle, le produit des circonstances, et parmi elles un épisode capital dans la vie de François Mitterrand, c'est évidemment la guerre. Il est engagé dans le conflit, il est fait prisonnier, il va rester pendant un an et demi dans un camp de prisonniers. Et ça a été déterminant dans ses choix, dites-vous Pierre Péan, dans ce qui allait le faire passer à Vichy ensuite.
Déterminant, capital, en tout cas c'est ce qui se passe entre, disons, fin 38, où il rentre à son service militaire. Ensuite, c'est la guerre, et lui, il ne fait pas la drôle de guerre. Il est vraiment à un endroit où ça chauffe, où il y a beaucoup de morts, il est blessé. Au mois de juin 1940, près de Verdun. Et ensuite, il va, comme un peu moins de 2 millions de jeunes Français, va en camp. Et donc, ça, c'est important aussi de comprendre sa démarche après. C'est-à-dire qu'il est plus de 3 ans en dehors de la vie civile. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ce contact, lui, venant d'un milieu de droite, ce contact où il n'y a plus d'hierarchie, où il y a énormément de frustration, de misère, tout ça, il découvre un autre monde et il découvre aussi que la France a abandonné toutes ses forces vives. On ne se rend pas compte aujourd'hui le traumatisme que ça a produit d'avoir presque 2 millions de gens en camp en Allemagne.
Et de gens qui sont travaillés par la propagande pétainiste, beaucoup d'entre eux le sont. On admire le maréchal, on compte sur lui pour qu'il vous tire du
pétrin. Parce qu'on estime que seul le maréchal pense encore à eux. C'est le seul. Donc effectivement, la propagande maréchaliste fonctionne bien dans les camps.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'évade en décembre 1941, il va presque aussitôt à Vichy. Et puis alors là, il va y travailler, il va exercer, vous le dites, des fonctions subalternes, mais avec beaucoup d'admiration pour Pétain. Il n'y va pas simplement pour trouver un boulot, il admire Pétain. Il l'écrit d'ailleurs en mars 1942. « J'ai vu le maréchal au théâtre, il est magnifique d'allure. Son visage est celui d'une statue de marbre. » Et alors, plus grave encore, lorsque Laval arrive, revient au pouvoir, prend la direction du gouvernement, ce qu'écrit François Mitterrand le 22 avril 1942, « Laval est sûrement décidé à nous tirer d'affaire. Sa méthode nous paraît mauvaise, point d'interrogation. Savons-nous vraiment qui il est, point d'interrogation. Si elle nous permet de durer, ce sera la bonne. C'est quand même accablant, car nous sommes à la veille du port de l'étoile jaune et des premières grandes rafles de juifs, Pierre Péan.
C'est accablant, mais faut resituer. C'est effectivement ça qui a posé le plus de problèmes lors de la sortie de mon livre. Mais il faut quand même rappeler que c'est une lettre privée à une de ses amies.
Justement, raison de plus, elle exprime vraiment sa pensée.
Donc, il écrit cette lettre le 22 avril 1942, et je crois que c'est le point culminant de son pétinisme. On va voir après que ça va descendre lentement. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il croit à la Révolution nationale, il croit. Mais précisons bien que. Il l'a été toujours anti-allemand. Et deuxièmement, son choix politique, c'est toujours par rapport aux prisonniers, toujours.
C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il ne s'est pas mêlé là où il était. Il a commencé à être documentaliste à la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution nationale. C'est-à-dire qu'il est pétainiste. Hein. Et puis ensuite au commissariat au reclassement des prisonniers. Mais il n'a pas participé aux rafles. Ça, on s'en doute. Il n'était pas dans la police française de Bousquet. Mais quand même, on a l'impression qu'il ne voit rien. C'est ce que d'ailleurs lui reprocheront ses amis plus tard, ses amis juifs, mais que faisais-tu pendant ce temps-là, pendant que les juifs étaient raflés?
C'est très très difficile de se remettre à cette époque, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Vichy, on sait tout de Vichy, et on sait notamment la relation de Vichy avec les Allemands, évidemment, les lois anti-juives, mais les gens qui ont vécu ça, quand vous regardez les textes du général de Gaulle, les textes de Jean Moulin, les textes des grands résistants, ils ne font pratiquement jamais mention de la question juive. Parce que la question juive, elle était englobée, disons que Vichy, pour tous ces gens-là, Vichy se retournait contre les francs-maçons, contre les juifs, contre les résistants, contre les gaullistes. Et donc, il n'y avait pas de la plupart, y compris chez les amis juifs de François Mitterrand, il n'y avait pas de spécificité de la question juive. C'était englobé dans un ensemble. Alors aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Donc, on reproche à François Mitterrand, comme à beaucoup, beaucoup d'autres gens, on reproche
de n'avoir rien fait.
Mais il n'y a pas grand monde qui a fait quelque chose à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas de spécificité.
Alors, en tout cas, il reste à Vichy, il y est pendant toute la durée de l'année 42, encore une fois, et notamment au commissariat au reclassement des prisonniers de Maurice Pinault, qui était lui un pétainiste mais anti-allemand. François Mitterrand reçoit même la Francisque début 43. La Francisque, Pierre Péan, ça aussi c'est accablant, on ne la donne pas comme ça, il faut la demander, et François Mitterrand l'a demandé.
Il l'a demandé.
C'est la décoration, il faut le rappeler, la plus importante.
Et ses deux parrains, ce sont deux proches du maréchal Pétain. C'est d'abord Gabriel Jeantet, qui est un ancien cagoulard, et Simon Arbello. Donc, il est effectivement dans ce milieu autour du maréchal Pétain. Il a des liens proches dans l'entourage, notamment du docteur Ménétrel, qui est le secrétaire particulier du maréchal Pétain. Mais ce qui n'empêche pas, on va y revenir, d'avoir d'autres activités.
Alors justement, on ne s'en rend pas compte tout de suite, et on s'en rendra compte lorsque, à la tête donc du commissariat aux prisonniers, Maurice Pinault est remplacé, parce qu'il n'était pas assez collaborationniste, en janvier 1943 par André Masson, auquel va s'opposer François Mitterrand lorsque le 10 juillet 1943, à la journée nationale du mouvement des prisonniers à la salle Wagram à Paris, André Masson défend ce qu'on appelle la relève, c'est-à-dire l'envoi en Allemagne de travailleurs français en échange de la libération de prisonniers de guerre. Écoutez cette archive de l'époque, suivie d'un extrait du docufiction de Serge Moati.
À Paris, plusieurs milliers de captifs libérés assistent à la première et imposante manifestation du mouvement prisonnier. Monsieur André Masson, commissaire général, va prendre la parole.
En ce moment, c'est difficile, c'est douloureux. Où il est beaucoup question de la relève, j'ai bien conscience. Et nul ne me démentira sérieusement qu'une autre politique que celle du président Laval n'empêcherait pas les ouvriers de partir et l'empêcherait seulement les prisonniers de rentrer.
Vous mentez! Comment osez-vous, monsieur? J'ose parce que vous mentez, Masson! J'ose parce que la relève est un marché odieux! J'ose parce que vous n'êtes pas fondé à représenter les prisonniers!
Je suis ici par la volonté du chef du gouvernement! Vous devez m'obéir! Vous serez convoqué par le président Laval.
Vous ne représentez pas les prisonniers. Vous êtes un imposteur. Jamais je ne vous obéirai.
Arrêtez-le.
Alors là, ce que l'on vient d'entendre, après une véritable archive, c'est un extrait du docu-fiction de Serge Moati. La première manifestation, c'est en juillet 1943, première manifestation publique de la résistance de François Mitterrand. Mais en réalité, vous l'avez dit dans votre livre, et c'est suggéré aussi dans cet excellent docu-fiction, François Mitterrand avait commencé à prendre des contacts avec la résistance. De quand date son entrée en résistance, Pierre Péan? Parce que ça, c'est quand même déterminant.
Alors, d'abord, il faut parler peut-être de ses actions clandestines. C'est-à-dire dès avril-mai 1942, il est dans des groupes qui envoient aux prisonniers de façon secrète, peut-être l'image du maréchal, mais en même temps des cartes pour s'enfuir. Et puis, il est proche d'un mouvement qui va devenir un mouvement de résistance qui s'appelle La Chaîne. Et il prend des contacts avec ce mouvement dès la Pentecôte, 42. Et donc, mi-42 jusqu'à janvier 43, il y a plein d'actions qui sont secrètes. Ce n'est pas encore de la résistance, mais on voit bien qu'à 42, ça s'en rapproche. Premier geste public, c'est en janvier 43. Maurice Pinault démissionne du commissariat aux prisonniers et François Mitterrand et quelques autres démissionnent à leur tour. Donc il a quand même des relations avec l'entourage de Pétain, mais il commence à bouger véritablement contre les collaborationnistes. Et puis dès mars, alors il a toujours cette double casquette. Il va prendre des contacts d'abord avec les militaires, les militaires qui vont constituer l'ORA, c'est-à-dire l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA. Mais très rapidement, dès avril, il prend contact avec Bernard de Chalvron, qui est le créateur du noyautage des administrations. Et puis après, avec le mouvement combat d'Henri Freinet, il rencontre Bertie Albrecht, oui. Etc. Autrement dit, il va avoir une activité en étoile où il a énormément de contacts. Et dès à peu près mai 43, il reçoit même de l'argent de l'ORA et il va être permanent. Alors dans son mouvement prisonnier, mais travaillant dans l'ORA.
Alors il passe dans la clandestinité en juillet 43. Cette fois-ci,
non, il n'est pas encore totalement dans la clandestinité. Il
fait en juillet.
Il est résistant. Oui. Il est résistant, mais il est encore. Il a une maison, il a une chambre à Vichy.
Alors résistant peut-être, il faut le rappeler, Pierre Péan, mais pas derrière le général de Gaulle.
Non,
il est derrière le général Giraud, le grand rival de Gaulle poussé par les
Absolument.
Américains, et qui lui, général Giraud, est pétainiste d'une certaine manière. Il n'a pas rompu encore Mitterrand.
C'est pas le mot que
avec le pétainisme.
C'est pas le mot que j'emploierais pour Giraud. Je dirais
mais
qu'il
le régime
n'a pas
qui
coupé,
met en place en Algérie.
Il n'a pas
régime.
Coupé ses liens avec Vichy.
Voilà.
Avec Vichy.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, disons le deuxième semestre de 43 jusqu'en fin novembre, on peut dire que François Mitterrand il ne reconnaît pas le général de Gaulle et il est dans un système giraudiste. Il est même affecté au service action de l'ORA. Et quand il décide d'aller vers... Parce qu'il voit bien que ça chauffe pour lui, parce qu'il y a le neveu du général de Gaulle qui est aussi dans les mouvements
Michel
prisonniers,
Caillot, oui.
Michel Caillot, et qui lui tape dessus. Et donc, il voit bien qu'il faut qu'il aille contrebalancer cette propagande du neveu du général de Gaulle et qu'il faut qu'il aille à Alger. Mais dans un premier temps, c'est par le système, donc c'est dans un avion du SOI, c'est-à-dire des Britanniques, en accord avec l'ORA, qui va à Londres. La première personne qu'il voit à Londres, c'est quelqu'un de l'ORA, du service action. La deuxième personne qui voit, c'est quelqu'un, donc c'est les Britanniques, et c'est seulement après qu'il va voir Passy du BCRA. Autrement dit, il arrive à Londres dans un premier temps complètement giraudiste. Et puis il se passe des choses, donc Giraud père dans son combat avec De Gaulle. Et donc, il y a fusion des services et il va se retrouver affecté donc, dans un système qui n'est plus un système giraudiste.
À la tête, en tout cas, du Mouvement National des Prisonniers de Guerre et Déportés, le NNPGD, dont il prend la tête, justement, en évinçant le neveu du général De Gaulle. Mouvement avec lequel donc, François Mitterrand va participer à la libération de Paris en août 1944. Une libération dont il parlait 8 mois plus tard au congrès de la Fédération nationale des prisonniers de guerre. C'est le plus vieil enregistrement de la voix de François Mitterrand. C'était le 13 avril 1945.
À Paris comme ailleurs, les prisonniers de guerre étaient au premier rang. Partout où l'Allemand s'accrochait, nous avons été présents. Et quand nous nous sommes retrouvés, rue Meyerbeer, alors que les Allemands étaient encore dans la commandanture voisine, alors que les Allemands circulaient dans la rue même et que nous nous sommes dit « Voici que la France est libre et qu'allons-nous faire ? Voici que la France enfin retrouve son indépendance et peut retrouver sa grandeur. Est-ce que nous, les captifs, de quelque chapelle et de quelque origine que nous soyons, nous allons, oui ou non, participer à cette grandeur ?»
Et c'était le plus vieil enregistrement de la voix de François Mitterrand en 1945 et au début d'une carrière politique pendant toute la durée de laquelle il a occulté son passé à Vichy, écouté le 24 ans plus tard en 1969, raconter sa guerre comme s'il était passé directement d'un camp de prisonniers à la résistance.
La guerre, la captivité, l'évasion, donc le grand tourbillon. Et puis à cette époque, par les hasards de la vie, dans la résistance, la France, l'Angleterre, l'Algérie, la France à nouveau.
La guerre, la captivité, l'évasion, puis dans la résistance, la France. Entre les deux, il ne s'est rien passé, si l'on en croyait Mitterrand en 1969. Or, il s'est passé toute l'année 42 et sa présence à Vichy auprès du pouvoir. Bon, c'est une occultation de ce passé qui a duré une cinquantaine d'années jusqu'à la parution de votre livre, Pierre Péan, même si on se doutait que ça n'avait pas été qu'il avait un passé. On parlait déjà de sa Francisque.
Oui, ben il a donc fait l'impasse sur un peu plus d'un an, mais il a fait d'autres impasses aussi qui sur cette période. Il a re-raconté, assez loin de la vérité, sa rencontre avec le général de Gaulle. Mmh. Il en a fait une rencontre qui s'était très mal passée parce que toute sa légitimité, il estimait que ça devait se construire par rapport au général de Gaulle. Il dit que ça s'est mal passé et j'ai retrouvé une lettre du seul témoin qui était de Freinet et qui ne dit pas du tout. Le général de Gaulle avait compris que ce jeune homme ambitieux était plus fort, était plus stratège que son propre neveu. Mmh. Donc, se retrouvant donc à gauche, bon, il a occulté l'année 42.
Et il a occulté l'année 42. Il a occulté aussi, quand même. Enfin, il a occulté. Il a eu la carrière que l'on sait, plusieurs fois ministre de la 4e République, puis ensuite candidat de la gauche et président et élu en 1981. Mais période pendant toute la durée de laquelle il a continué malgré tout de voir certaines personnes, et parmi les plus embarrassantes, c'est d'ailleurs ce que votre livre a révélé, de voir René Bousquet, qu'il ne connaissait pas pendant la guerre, mais qu'il a vu ensuite régulièrement chez lui, même à Latché, dans l'intimité, René Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv, Pierre Péan. Ça aussi, c'est accablant.
Ben, ce qui est accablant, c'est le problème, c'est la date. C'est jusqu'à quelle date il a rencontré Bousquet. Parce que tout le monde, dans les années 50, 60 et début des années 70, il était reçu dans tout Paris. Personne ne s'opposait, puisque en 1949, il avait été, la haute cour l'avait gracié. Donc, et d'autre part, François Mitterrand ne l'a connu qu'après ce jugement de 1949. Et c'est important de savoir par qui il l'a connu. Il l'a connu par celui qui était le chef de cabinet de Bousquet, donc sous Vichy, qui est Jean-Paul Martin. Et donc, Jean-Paul Martin est un homme très, très important dans sa période Vichy. C'est pourquoi ? Parce que Jean-Paul Martin donnait au mouvement des prisonniers beaucoup de renseignements. Il est probable qu'il a empêché des arrestations oui. de gens de l'entourage de François.
Enfin, il a fait comme s'il ignorait ce qu'avait fait Bousquet pendant la guerre. C'est ce qu'il a révélé plus tard. C'est que vraiment ce que personne ne croit. Il y a des choses qui troublent aussi.
C'est après l'interview oui. d'Arquier de Pellepoix que ça pose un problème. C'est à partir de, disons, la fin des années 70 et qui continue à le voir.
Alors, il y a quand même des gestes aussi. Il fait fleurir la tombe de Pétain à Lisieux, même pendant qu'il était président de la République, refusant de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Alors, tout ça, évidemment, était troublant jusqu'à la publication de votre livre en 1994, qui a provoqué d'ailleurs une telle indignation que quelques jours plus tard, François Mitterrand était bien obligé de s'en expliquer devant la télévision de Jean-Pierre Elkabbach le 12 septembre 1994.
Peu d'hommes ont été aussi attaqués. Hein. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'on dit de moi, ouais. qui me ferait en d'autres temps bondir de colère ou souffrir vraiment, avoir un chagrin immense. Mais je ne l'ai pas, parce que j'ai la conscience tranquille. J'aimerais qu'on me dise, bon, au total, ce que tu as fait est plus positif que négatif. Tu as essayé d'aider les autres et de les aimer. Tu n'y as pas toujours réussi. Tu aurais peut-être dû les aider et les aimer davantage. Mais j'aimerais au moins que ce jugement d'équité soit prononcé plutôt qu'un autre. Je me sens très, très en paix avec moi-même. Je me trouve devant des échéances qui ont un rapport avec la sincérité.
Et c'était en septembre 1994, les échéances, bien sûr, Pierre Péan, c'était la fin de son deuxième septennat, en mai 1995, puis sa mort en janvier 1996. Il est très malade, ça s'entend dans cette interview à Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que c'est aussi à cause de ces échéances qu'il vous a parlé? Car quand vous avez écrit ce livre, quand vous lui avez apporté tout ce que vous aviez découvert sur son passé, il n'a pas hésité quand même à se confier.
Ça a été lent. C'est-à-dire que c'est au fil du temps que j'ai eu le sentiment que vraiment il se confiait. Et l'échéance dont il parle, et pour moi c'est pas du tout des échéances politiques, c'est la mort. La mort était très présente dans nos relations. Donc c'est le poids de la mort qui fait qu'il veut se confier et puis être honnête.
Et alors, avec, dit-il, la conscience tranquille. Il faut le rappeler quand même, il a certes, et il l'a caché aussi pendant 50 ans, participé à la politique de Vichy, mais à un niveau subalterne, dans des activités qui n'avaient rien à voir avec la politique antisémite, ni même la collaboration. Il avait les mains propres.
Il faut affirmer fort que François Mitterrand avait les mains propres et qu'il a eu le parcours de beaucoup d'autres qui ont aussi qui sont rentrés dans la résistance. À Vichy, il y a eu plein de gens. Il y a eu des Delattes de Tassigny, il y a eu des frères, il y a eu des Delestrin, il y a eu plein de gens. Il avait ce parcours-là. Il est parti lentement.
Mais Frédéric lui-même qui avait été pétainiste au tout début de la guerre et en même temps résistant.
Absolument. Donc il aurait pu dériver mal, il a très bien terminé.
Oui, mais il a terminé parce qu'il a gardé le secret. On imagine bien que votre livre publié dans les années 50 l'aurait empêché de faire carrière comme il l'a fait, Pierre Péan.
Oui, c'est probable. C'est probable, mais la question était s'il avait les mains propres. Le problème, c'est qu'il l'a caché, mais autrement, il avait les mains propres sur cette période. Mais c'était trop compliqué, sans doute, à expliquer quand on avait une carrière à gauche.
Il y a une anecdote extraordinaire sur la photo où on voit Pétain et Mitterrand ensemble. On dit que le général de Gaulle, en 65, au moment de l'élection présidentielle, l'avait eu entre les mains. On avait dit... Oui. Sortez-là, et de Gaulle avait refusé de faire cette révélation que vous faites beaucoup plus tard, et de Gaulle assez noblement avait dit « pas de boule puante ».
C'est vrai.
Merci Pierre Péan, je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre « Une jeunesse française », François Mitterrand, 1934-1947, publié chez Fayard en 1994. Et puis à lire également « Mitterrand, Vichy et nous » de Serge Moatti et Hugues Nancy aux éditions de l'Aube, et François Mitterrand, « La résistance et Vichy » de Gérard Guichetot, publié chez Jean-Claude Gavsevitz, éditeur. Vous avez pu entendre des extraits de l'excellent docu-fiction « Mitterrand à Vichy » de Serge Moatti, qui sera diffusé sur France 2 le mardi 22 avril à 20h50, édité en DVD par France Télévisions, ainsi que du documentaire « Mitterrand à Vichy, le choc d'une révélation » réalisé par Hugues Nancy et qui sera également à voir sur France 2 le même 22 avril à 22h20. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Dimitri Gronoff et Éric Mainviel, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Élise Médétonnion, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les Français et leur empire colonial.